Ah donc bonsoir. Donc l'enseignement est enregistré et mis en ligne sur le site de la paroisse. Je sais qu'il y en a qui l'écoutent. Bon, c'est bien si on peut venir quand même aux rencontres. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient contents, mais je ne sais pas si ils sont pas là. Voilà. En tout cas, vous êtes invités à venir. Mais de toute façon, ceux qui ne peuvent pas, eh bien. C'est bien qu'ils puissent aussi suivre ce parcours. Donc la semaine dernière, on a vu les effets de la gratitude, histoire de nous stimuler et de montrer un peu la grâce qui est attachée à cette attitude. Et on a vu que c'était une attitude aussi typiquement chrétienne. Dieu nous a fait pour le bonheur. Et ce bonheur, on a le droit d'en profiter dès cette terre. Hein, même si on sait que le mal fait son œuvre, et donc, mais ça on va voir ça plus tard. Mais il n'empêche qu'on peut déjà vivre de ce bonheur. Nous sommes faits pour cela, on peut déjà en vivre ici sur Terre. On a vu aussi une petite pratique à essayer de développer dans nos vies. Hein, c'est reconnaître, se laisser toucher, prendre conscience, se laisser toucher, et ensuite remercier. Hein, donc je suppose que ceux qui étaient là la semaine dernière ont essayé de faire les exercices. On fait cet exercice en particulier. Donc de reconnaître, de prendre conscience de certains événements de leur vie, de leur journée. Hein, on était invité à trouver 15 moments dans sa vie, de les reconnaître, de les goûter hein, comme des moments de grâce, de bonheur, et ensuite de remercier et d'entrer, de s'autoriser à entrer dans cette joie. Et on a vu aussi que parfois, inconsciemment, on se donne des obstacles pour rentrer dans la gratitude, parce qu'on se dit, inconsciemment, on se dit qu'on n'y a pas le droit, ben voilà, qu'il y a des soucis, qu'on a des problèmes, voilà. Et donc on s'interdit des choses, ce qui est tout à fait nuisible. On est en période de carême, et le carême nous prépare, bien sûr, à la fête de Pâques, et ensuite au temps pascal. Saint Augustin, quand il commence, j'ai déjà dit en homélie, hein, parce que c'est quelque chose que je trouve assez fort. Il dit, en fait, le carême, quelque part, est facile à vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le carême est facile à vivre parce que le carême, c'est notre condition de vie sur Terre où il y a des choses à corriger, il y a des choses à travailler, il y a des efforts à faire. Donc finalement, voilà, c'est la vie normale du terrien qui n'est pas encore au ciel. Le temps pascal, c'est l'anticipation du ciel. Il dit, en fait, c'est le temps pascal qui est le plus difficile à vivre. Pourquoi? Parce qu'on doit vivre selon les réalités d'en haut. On doit vivre vraiment en chrétien. Et donc, selon les réalités du ciel. Et donc, c'est comme ça que, dans la liturgie, on retrouve l'Alléluia, qui est le chant de victoire du chrétien, le chant de victoire de ceux qui reconnaissent en Jésus le ressuscité. Alléluia, qui veut dire « loué soit Dieu hein, »,« loué Dieu ». Et donc, ce chant de l'Alléluia exprime l'attitude d'action de grâce permanente qui doit habiter la vie du chrétien à cause du salut, à cause de sa vocation à aller au ciel et de vivre déjà des réalités du ciel sur terre. Hein, vivez selon les réalités du ciel, dit saint Paul. Voilà. Et donc, finalement, l'exercice que nous faisons pendant le carême nous prépare à vivre le temps pascal et donc autrement dit, à vivre en chrétien, parce que de fait, le chrétien, c'est pas quelqu'un d'exalté, mais c'est quelqu'un qui vit dans une véritable gratitude vis-à-vis du don de Dieu, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la rédemption, vis-à-vis de la présence de Dieu dans sa vie, vis-à-vis de cette victoire que Jésus a obtenue de haute lutte, hein, en donnant sa vie carrément comme un criminel, mais il l'a fait pour chacun de nous. Hein, Il l'a fait, s'il y en avait eu un sauvé, s'il avait été moi, il y avait eu moi sauvé, il m'aurait sauvé comme ça, il aurait donné sa vie. Hein, on retrouve ça après dans la vie des saints. Il y a certains saints qui disent « je suis prêt à m'échanger avec un damné, je suis prêt à aller en enfer à la place de l'autre », ce qui n'a aucun intérêt d'un point de vue mathématique, mais ça montre exactement l'attitude du Seigneur par rapport à nous. Il nous sauve, chacun personnellement, et il a donné sa vie vraiment pour chacun personnellement. Ce qui peut nous faire mesurer aussi, d'ailleurs, la puissance de l'épreuve, de sa passion. Alors, les exercices que vous avez pu faire durant cette première semaine, eh bien, vous êtes invités évidemment à les continuer, hein, et puis on va voir d'autres exercices qui vont nous être proposés, mais c'est un peu toujours dans la même mouvance, hein, vous allez voir, tout ça pour rentrer dans cette action de grâce. Alors, là, on va aller un peu plus loin que la semaine dernière, on va voir comment développer une personnalité habitée par la gratitude, c'est-à-dire comment développer la vertu. Hein, donc, la semaine dernière, j'ai évoqué ça. Dans la théologie de l'Église, il y a la vertu et les vices. Et nous sommes habités par des vices. Alors, peut-être pas des vices gros, mais quand même, quand on a une mauvaise habitude, c'est un vice, un habitus mauvais. Et un des habitus mauvais, c'est par exemple de toujours voir les choses mal, de toujours regarder la vie du mauvais côté, de ne jamais reconnaître les belles choses de la vie. Hein, donc c'est un vice, hein, qu'il faut corriger. Il y en a plein d'autres, hein, vices. Et donc développer la vertu inverse, c'est donc la gratitude et l'action de grâce. Donc comment développer cette vertu? Donc on l'a vu un petit peu la semaine dernière, c'est faire répéter des exercices, puisque la vertu se développe comme un muscle. Hein, c'est en faisant régulièrement qu'on change notre comportement. Il faut du temps. Hein, la vertu se développe dans le temps et avec la grâce de Dieu. Donc voilà, l'objectif du parcours, ce n'est pas simplement de ressentir quelques instants de gratitude. Hein, j'espère que vous avez pu en faire l'expérience durant cette semaine. Lorsqu'il nous arrive quelque chose de positif, qu'on arrive à reconnaître. Mais notre but est de développer dans notre caractère, dans notre personnalité, de développer une attitude de gratitude. Une sorte que, de façon à ce que ce devienne une vertu, c'est-à-dire une habitude bonne, qui naturellement nous seront tournés vers l'attitude de gratitude, vers la gratitude. Comme une nouvelle façon de regarder la vie. Alors, premier point, vivre dans la gratitude est une nouvelle manière de regarder la vie. Donc ça correspond au livret. Une nouvelle manière de regarder la vie. Alors, notre but est d'apprendre à être dans la gratitude de telle manière que, dès le matin, en se levant, je remercie pour ma vie, ma journée, mon travail, ma famille. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'expérience cette semaine, mais je sais que ça, c'est un des trucs assez immédiats. C'est-à-dire que quand on analyse la manière dont on se lève, alors ça dépend des gens, hein, on n'est pas tous pareils, mais quand on se réveille, quand on se lève, quelle est... Alors, la première pensée, elle n'est pas toujours contrôlable. Hein. Ça, c'est pas... On n'en est pas... On est plus victime que coupable. Par contre, c'est la seconde. Hein, donc, qu'est-ce que je fais quand je me lève? Hein, c'est bien de se tourner vers Dieu, d'adorer. Le premier geste, c'est l'adoration. Mais, tout de suite, adorer en remerciant. Merci, Seigneur, pour cette journée. On va y revenir, je crois, un peu plus loin. En tout cas, ça, c'est génial, parce que tout de suite, ça donne une autre orientation pour la journée. Quelle que soit la journée. Voilà. Je remercie donc pour ma journée, mon travail, ma famille, etc. Tout ce que je vais vivre dans la journée. Peu importe ce qui m'arrive dans ma journée, facile ou difficile, que je sois capable de rester en paix parce que j'ai la conviction profonde que ce qui m'arrive est un cadeau. Hein, de rentrer dans ce regard sur cette journée. Voilà, que la vie est belle, en fait, qu'il y a quelque chose de beau à vivre chaque jour, quel que soit ce qui j'y vis. Je ne vais pas m'arrêter aux simples quelques premières impressions. Et que même si je suis dans une épreuve, que je puisse le plus rapidement possible me relever et voir comment, à travers cet événement, le Seigneur me donne la grâce de grandir en sainteté et en humanité. Hein, de voir comment, à travers cette épreuve, bien, le Seigneur me donne la chance de grandir. En tout cas, dans la foi, on peut le reconnaître parce que c'est la réalité. Le Seigneur se sert de tout. Ça, on va le développer un petit peu. Voilà, deuxième point, vivre dans la gratitude ne signifie pas ne plus avoir d'épreuves. Ça, vous le savez. Hein, ce n'est pas vivre dans la gratitude, ce n'est pas un moyen de ne plus avoir d'épreuves. Mais, et c'est typiquement chrétien, hein, le chrétien, ce n'est pas celui qui a moins d'épreuves. Normalement, il a autant d'épreuves que les autres, avec un petit peu plus sur la persécution. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, vivre. Donc, on n'a pas moins d'épreuves. Par contre, c'est arrivé à vivre ces épreuves, ces moments difficiles, avec cette conviction que Dieu est avec moi, qu'il me guide, qu'il me donne la grâce, et que sa grâce me fait vivre cette épreuve comme un cadeau. Chaque chose devient un cadeau. Alors ça permet, ce regard de foi sur l'épreuve, hein, ça permet de relativiser, sans nier la réalité, hein, l'épreuve elle est là, il faut l'accueillir. De toute façon, la meilleure solution pour accueillir une épreuve, c'est... Pour vivre une épreuve, c'est de l'accueillir déjà, parce que si j'augmente encore la souffrance, puis de relativiser, il y a plein de moyens de relativiser, hein. Donc il y a ce regard de foi qui est fondamental, mais après on peut aussi se dire que un souci en chasse un autre, et puis qu'une épreuve, voilà, quand on n'a pas une épreuve, on en a une autre derrière. Enfin bon, la vie c'est ça, quoi. Ça fait partie, la croix fait partie de la vie normale. Un mystère, le mystère du mal qui œuvre, mais que Dieu en tire profit, si on veut bien. Voilà, une manière de vivre les épreuves de façon particulière. Troisième point, vivre dans la gratitude, c'est tout voir comme un cadeau. Tout accueillir comme un cadeau. Pour cela, pour arriver à cela, on a commencé par apprendre à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de beau dans notre vie, ce qu'on a reçu. De notre entourage, de nos parents, de personnes qui nous ont aidés. Et maintenant, on va aussi apprendre à voir de la gratitude. La semaine dernière, hein, donc on a vu ce qu'il y a de beau, hein, dans les choses de la vie. Maintenant, on va apprendre à voir de la gratitude même dans les choses difficiles. On va le développer aussi un peu plus tard. Parce qu'elles sont aussi un cadeau de Dieu. Voilà, c'est le mystère même de la croix. Autrement dit, on peut reprendre cette parole que tout le monde connaît de Thérèse de Lisieux, « Tout est grâce ». Alors, juste un petit témoignage, le début d'un témoignage qui est dans le bouquin, là, qui est dans le livre, que je vous... Vous avez tout dedans. Hein. Alors, « Je te rends grâce, Seigneur, pour la joie qui m'habite de plus en plus et qui transforme ma vie quotidienne. À la suite du parcours gratitude, j'ai décidé de prier chaque matin avec une pensée, une prière proposée. Seigneur, je te bénis pour cette journée que je reçois de ta main. Cette prière donne du sens à toute ma journée, en accueillant Jésus en moi, dans ma vie de tous les jours. Avant, je me levais péniblement, écrasé d'avance par mon emploi du temps. Je me sentais prisonnière, terriblement seule, et j'avais l'impression de subir cette situation. J'étais dans la plainte continuelle. Maintenant, je me sens participer au chef-d'œuvre de cette journée que le Seigneur a préparé avec amour pour moi. Je peux exercer des choix dans une plus grande liberté pour coopérer à l'œuvre de Dieu en moi. C'est si enthousiasmant que je me sens et je me sens tellement plus vivante. Bon, puis après, elle continue avec des petits exemples. Mais... Voilà. En tout cas, voilà. Accueillir la vie, tout est grâce. Alors, nous allons voir les ennemis de la gratitude. Alors, c'est à la fois votre livret, et j'ai rajouté un petit peu, qui est toujours dans le bouquin. Hein. Alors, vous savez que, selon les pères du désert et dans la spiritualité, il y a trois ennemis pour notre vie chrétienne. Je prends dans l'ordre qui fait peur. Enfin, le plus qui fait peur, c'est le démon, hein, ce premier ennemi. Hein, il veut nous détourner, évidemment, d'une vie chrétienne. Hein. Alors parfois, il n'a pas de peine, parce qu'on est tellement d'accord que... Voilà. Ensuite, le deuxième ennemi, c'est le monde, les séductions du monde, comme on dit. Et le troisième ennemi, c'est nous-mêmes. Et ça peut nous surprendre, mais les pères du désert disent « Le plus difficile, c'est soi-même. » C'est pas le démon, c'est pas le monde, c'est soi-même. Ceci dit, les deux autres, le démon et le monde, ont leur effet, on va le voir légèrement. Alors le démon, je ne développe pas, parce qu'ils n'en parlent pas trop dans le bouquin. Mais bon, le démon, il agit par des tentations, par nous mettant dans des combats qui sont incompréhensibles parfois. Hein. On se dit, comment ça se fait que j'ai envie d'être triste à ce point-là alors que j'ai pas de raison que je le sois. Voilà, des trucs comme ça. Enfin, donc, c'est souvent basé sur des conditions psychologiques. Enfin, voilà, il utilise un peu tout ça. Bon, on va pas développer le démon. On en parle un tout petit peu sur les peurs, je crois, un peu plus loin. Voilà. Alors, par contre, le monde. Le monde, il me semble que... Donc, je reprends un passage du livre. Le monde aujourd'hui est très séducteur et nous séduit et nous séduit aisément et nous tombons facilement dedans. Donc là, ce n'est pas dans votre livret, c'est un petit supplément. J'en ai parlé légèrement la semaine dernière. L'hyperconsommation ou le matérialisme. Donc le monde nous brille et brille, et dans nos pays particulièrement, puisque nous sommes riches. Et donc, dans notre société, on a développé ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperconsommation. C'est-à-dire, non seulement on consomme beaucoup d'alimentation, de vêtements, etc., mais là, on consomme de plus en plus de choses inutiles. Tout est consommable. Et on rentre même dans une spiritualité de la consommation. Par exemple, cette tentation d'aller d'expérience en expérience spirituelle... de paroisse en paroisse, de se créer soi-même sa propre religion, de se faire son idée personnelle, voilà. Et puis quand on en a marre, on change. Donc ça, on rentre dans cette logique de l'hyperconsommation, de la consommation permanente et surconsommation. Et l'idée, c'est de... Donc j'achète, je consomme, j'en tire profit, un petit plaisir, et je jette. Voilà. L'injonction principale de l'hyperconsommation est la maximalisation du plaisir. La maximalisation du plaisir. Comment ? Tout d'abord, en jouissant au maximum des objets dont il s'empare. Faites-vous plaisir. Il faut se faire plaisir. Ensuite, en multipliant, en variant, en renouvelant à l'extrême les différentes possibilités de jouissance. Et pour cela, notre société est très forte. La logique profonde qui sous-tend ce comportement est celle d'une séparation entre le plaisir et l'objet qui en est la cause. C'est une recherche de plaisir pour lui-même. C'est une méthode qui n'est pas nouvelle, puisque les Romains décadents utilisaient déjà cette logique du vomitorium pour pouvoir avoir le plaisir de manger. Donc ils mangeaient, et puis ils remangeaient, sans pour autant prendre de poids. Voilà. C'est cette même logique qui se trouve aujourd'hui dans l'hyperconsommation. S'emparer de l'objet, consommer le plaisir et jeter l'objet. Jouir du plaisir que procure l'objet et s'en débarrasser. Ce qui est nouveau chez nous, c'est l'ampleur et l'intensité du phénomène. On le trouve partout. On peut pratiquement prendre tous les domaines. Je prenais spirituel parce que spirituellement on se dit ben non, mais si aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de notre mentalité. Moderne, et sur Internet, c'est très très important aussi, cette recherche permanente. Voilà. Alors, bon, les effets mortifères de l'hyperconsommation, vous en aurez déjà deviné certains, mais voilà. C'est que, en fait, on ne supporte plus la frustration. On est incapable de vivre le manque. Une recherche permanente de plaisir, l'hyperconsommateur supporte de moins en moins la frustration. Voilà. Recherche immédiate de satisfaire son désir est vécu, quand c'est pas possible, c'est vécu comme insupportable. Jamais la tyrannie du tout de suite n'a été aussi forte. C'est toujours comme ça. Ces difficultés à gérer la frustration est exacerbée par la publicité. Donc c'est vraiment c'est un péché collectif, une structure de péché en fait. Et puis toute la société, notre business est consommé. On sait que par exemple le ralentissement de l'économie en, en Chine à cause du virus a des impacts très rapides chez nous parce qu'ils consomment énormément et nous, voilà. Donc voilà. Donc l'incapacité à supporter la frustration. Le deuxième difficulté, le deuxième effet mortifère, c'est l'accoutumance au plaisir. On est tellement tout le temps dans la recherche de plaisir, dans l'expérience de plaisir permanent, qu'on s'accoutume et on coupe le plaisir de sa source, on le condamne à l'épuisement. On n'est jamais assez satisfait dans le plaisir que l'on retrouve. Voilà, petit exemple. C'est pas moi qui l'ai écrit ça. Boire une bière. La première gorgée de bière, c'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée, c'est-à-dire le plaisir du début, puis après, ça y est, c'est fini. Ainsi, pour maintenir le sentiment de jouissance au même niveau, l'excitation doit être sans cesse accrue, avec soit en augmentant la stimulation extérieure, comme un drogué qui augmente tout le temps la dose, soit en changeant de registre, en passant d'une source d'excitation à une autre. Comme en changement de drogue. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Très vite, une accoutumance décevante. Très vite, une forme aussi de dépendance. Alors, voilà. Le troisième point de l'hyperconsommation, c'est la dépendance. La dépendance est une pathologie du plaisir. Elle consiste dans une perte de liberté vis-à-vis de la jouissance que procure l'objet. Alors, en fait, on devient dépendant de l'objet du plaisir, de ce qui nous donne du plaisir, on cherche toujours. Voilà. Nous avons dit à un sociologue, hein, nous sommes dans une société addictive. Parfois, j'ai du mal à me comprendre. L'autre jour, après une longue matinée d'écriture, donc c'est un écrivain qui dit ça, j'avais le cerveau prêt à exploser et besoin de respirer. Et si j'allais faire un tour en ville, le soleil était au rendez-vous et l'air frais. Une fois dehors, ma petite voix intérieure m'a aussitôt alerté. « Mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Je connaissais trop bien la réponse. « Acheter un livre. » Lequel, je n'en savais encore rien. Je ne cherchais pas un titre particulier, je voulais juste un nouveau livre. Donc cette recherche permanente de plaisir supplémentaire. Donc cette société nous encourage à notre insu à entrer dans cet état. Et donc maintenant, il y a tout un tas d'addictions qui se développent, hein, en plus de l'alcool, du tabac, de la drogue. Maintenant, même le travail peut être une addiction. L'achat compulsif, les sports extrêmes, les réseaux sociaux, l'usage d'Internet, la pornographie, les jeux vidéo, la liste est sans fin. Donc, dans le quatrième conséquence de l'hyperconsommation, c'est la tristesse. En fait, on cherche du plaisir et on récupère de la tristesse. Pourquoi ne suis-je pas plus heureux alors que je possède tout? On peut dire ça chez nous, hein, dans nos pays. On possède à peu près tout ce qu'il faut. La course au plaisir engendre la frustration, l'accoutumance, puis la dépendance. Loin de combler, elle enferme dans un cercle infernal d'une recherche de satisfaction perpétuellement inassouvie. Mais il y a plus. Plus je me centre sur mon plaisir, plus celui-ci s'évanouit, et moins je m'épanouis. Les scientifiques observent que, paradoxalement, rechercher le plaisir diminue le plaisir éprouvé. La recherche du plaisir pour lui-même, le plaisir éprouvé. La recherche du plaisir pour lui-même se relève une stratégie funeste. Plus je me centre sur moi-même, et moins j'atteins mon but, être heureux. C'est la logique elle-même de la société de consommation qu'il faut remettre en cause. Non seulement elle ne produit pas le bonheur, mais elle l'empêche, en centrant l'homme de manière narcissique sur lui-même et en exerçant en lui des désirs qui ne le combleront jamais. Pour trouver la vraie joie, il faut une révolution, une conversion. passer de la logique de la consommation à la logique du don, entrer dans la logique de la gratitude. On y revient à notre sujet. Entrer dans la logique de la gratitude. Alors je voudrais simplement illustrer, alors c'est pas directement sur la gratitude, mais par contre, sur le jeûne. C'est la mode, carrément. Sur le jeûne. En fait, si on veut vraiment goûter la joie et de Pâques et de la nourriture qui nous est offerte, enfin des belles choses que nous pouvons manger à certaines occasions, eh bien, jeûnons. Souffrons de la faim, acceptons la frustration, le manque. Et ça, je vous assure qu'après, on goûte vraiment les choses. J'avais un professeur en liturgie qui disait « Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu le sens de la fête parce qu'ils ont perdu le sens du jeûne. » Il n'y a pas si longtemps, on jeûnait avant toutes les grandes fêtes. Mais c'est pour illustrer. Hein, c'est-à-dire que... Et c'est pour ça que quand on dit qu'il ne faut pas jeûner que de nourriture, je suis d'accord. Mais il faut jeûner de nourriture. Enfin, sauf si on a un problème de santé, évidemment. Mais le jeûne de nourriture, c'est basique. C'est traditionnel. Et le jeûne de nourriture nous fait redécouvrir la vie et le sens à la nourriture, justement. Et Thérèse d'Avila, vous connaissez l'anecdote, quand elle va chez elle a été réputée pour être très ascète, elle va chez une dame très, très, très aisée, qui l'accueille bien, qui lui sert des cailles. On savait que c'était le plat préféré de Thérèse d'Avila. Et de fait, elle voit Thérèse d'Avila engloutir ses cailles et tout ça. Donc... un peu choquée, la dame, qui n'était pas elle à 7, mais dit, mais comment ça se fait que vous mangez avec autant d'appétit? Elle dit, écoutez, c'est simple, quand je jeûne, je jeûne. Quand je mange des cailles, je mange des cailles. Il faut savoir distinguer les temps. Il y a un temps pour tout. Voilà. En tout cas, si on veut retrouver le goût des choses, il faut accepter cette frustration. Voilà. Et il faut entrer aussi donc, dans le don, et donc ne plus s'auto-centrer sur soi, mais rentrer dans le don de soi, et la gratitude fait partie de ce don de soi. On sort de nous-mêmes quand on rentre dans la gratitude. D'un seul coup, on ne se dit plus, je suis à plaindre, on ne s'auto-flagelle pas, on rentre dans une autre démarche. Voilà. Alors donc, comme remède à l'hyperconsommation, bon, je vous ai dit le jeûne, ça c'est pas dans le livre, c'est mon petit truc. Mais je vous dis aussi, remède à l'hyperconsommation, la gratitude. La dynamique de la gratitude est tout autre. Elle nous fait prendre conscience que dès maintenant, nous avons déjà beaucoup. Saint Paul, il dit, dans une de ses lettres, il dit « Contentez-vous de ce que vous avez ». Alors là, il y en a certains qui disent « Ouais, bah, c'est une ridicule, parce que non, justement, on doit redemander, on devrait avoir plus ». Il ne le dit pas pour dire « les pauvres restez pauvres, les riches restez riches », c'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est vraiment de goûter ce qu'on a. Hein, et avec le Seigneur, goûter ce qu'on a, apprécier ce qu'on a. Hein, et ne pas tomber dans la jalousie ou dans le désir de quelque chose qu'on n'aura pas ou qui ne nous satisfera pas. Voilà. Elle nous fait prendre conscience que dès maintenant, nous avons déjà beaucoup, bien plus que nous n'imaginons. Elle nous permet de ressentir intérieurement la chance que nous avons et suscite en nous un sentiment de plénitude. Elle nous ouvre à la reconnaissance et au remerciement pour les personnes à qui nous devons ces dons. Plus nous serons dans la gratitude, moins nous serons vulnérables aux comportements compulsifs. Je pense que c'est un très bon remède aux dépenses exagérées. Je ne sais pas dans quel domaine, chacun voit les siens. Mais c'est un très très bon remède. Vous voulez moins dépenser, rentrez dans la gratitude. Parce que d'un seul coup, vous apprécierez ce que vous avez. Finalement, les chaussures, elles sont très bien. Elles peuvent encore faire une année. Pas besoin d'en acheter une nouvelle paire, par exemple. Hein, parce que moi, je dis... Voilà. Voilà. Donc la gratitude... Voilà. Cultiver... Alors, le deuxième point pour lutter contre l'hyperconsommation, cultiver la gratitude fait entrer dans la dynamique du don, antithèse de la logique de l'hyperconsommation. L'homo, voilà. Le Concile Vatican II écrit ceci. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver lui-même que par le don désintéressé de lui-même. Quelque chose qu'a beaucoup développé le pape Jean-Paul II. L'homme ne se réalise que dans le don. Et en fait, notre insatisfaction est liée au refus du don. Notre difficulté à nous donner, notre refus du don. On pense le contraire. On pense que c'est si on reçoit qu'on va être comblé. Or, c'est en donnant. Mais il faut donner bien, par contre. Bon, ça, on ne va pas développer maintenant. Il ne faut pas être... il faut vivre l'oblation, le don de soi, mais il ne faut pas quelque chose qui nous fait mourir. Je ne trouve pas le terme. J'ai un terme dans... Voilà. Deux attitudes différentes. Bon. Donc, deux pôles dans la dynamique du don. La réception et la donation. Il faut ajouter un terme intermédiaire, l'appropriation. Donc il faut reconnaître le don que nous avons, le reconnaître, le recevoir, l'accueillir. On retrouve un peu les étapes. Reconnaître le don reçu, le don qu'on a reçu pour nous-mêmes. Tout ça, c'est encore pas dans vos livrets. Donc reconnaître, réception, l'appropriation de ce don. Vraiment prendre conscience, l'intérioriser. Et puis... la donation, le don offert, le don de soi, qui nous invite à donner. On avait pris l'exemple la semaine dernière aussi, de quand on entre dans le don, il y a le cercle vertueux du don, qui engendre d'autres dons. Ainsi, deux images qui décriraient l'être humain comme une source et comme un simple canal sont fausses. L'image de l'homme comme une source qui se donne tout seul comme une source, ou bien comme un canal qui fait passer l'eau, sont fausses. Je ne suis pas une source, je vais m'épuiser si je suis une source, ça sera mortifère, un peu ce que je disais. Je ne suis pas non plus un simple canal qui transmet aussitôt ce que je reçois, mais je suis plutôt une vasque. Ça a été développé par certains pères, et puis par Bernard de Clairvaux aussi. Je suis une vasque, une citerne alimentée en amont par une source. Je reçois la vie, je l'accueille, je me l'approprie, je me laisse remplir, je rends grâce. Et ensuite, je peux offrir, donner, irriguer à mon tour, servir, me donner. La dynamique du don peut être résumée, elle aussi, par trois verbes, donc recevoir, accueillir et donner. Recevoir, accueillir, donner, qui sont l'inverse de l'hyperconsommation, de l'homme qui consomme, qui lui prend ou achète, prend, consomme et jette. Là, on reçoit, on goûte, on remercie, on redonne. Voilà. Cultiver la gratitude, alors ça c'est le troisième point, cultiver la gratitude ouvre la porte à Dieu qui seul peut combler la soif de nos cœurs. Seul Dieu peut finalement combler notre cœur. Quand on sort de l'hyperconsommation, eh bien évidemment, on s'aperçoit qu'on ne sera comblé que par Dieu. On est fait pour ça. Vous connaissez saint Augustin, il y a plusieurs passages qui sont très beaux dans ce sens. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Il n'y a que Dieu qui peut nous remplir. » Ainsi, le vide existentiel que nous percevons est-il un appel à ouvrir nos vies et nos cœurs à Dieu ? La consommation est une stratégie de diversion. C'est une conséquence du péché, en fait. Et plutôt que d'affronter cette aspiration profonde intérieure et l'inconfort qu'elle génère, nous tournons vers la consommation. La gratitude va nous aider, elle nous permet de reconnaître dans les objets que nous avons des biens qui nous ont été donnés par amour, par le Créateur, par Dieu. En cela, elle est une porte puissante pour ouvrir nos cœurs à Dieu. Bon, il y a aussi cette phrase de Thérèse d'Avila, « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. » Celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Donc voilà, je vous ai convaincu. L'hyperconsommation qui est un fléau, eh bien en fait la gratitude peut nous aider vraiment à nous sortir de cette attitude qui nous atteint tous, hein, prêtres inclus, les achats compulsifs d'ornements liturgiques. En tout cas, voilà, on est tous atteints par ce recherche de plaisir, voilà, parce qu'on nous dit que c'est comme ça. Tu veux être heureux, fais ça. Donc on nous le dit tout le temps, on nous le rabâche. Et puis ça fait marcher une économie, un style d'économie. Hein, donc il faut savoir que les papes, depuis Benoît XVI au moins, mais peut-être Jean-Paul II, mais Benoît XVI et le pape François parlent de plus en plus souvent désormais que les chrétiens doivent rechercher une vie sobre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on se prive de tout, hein. Ça ne veut pas dire qu'on jeûne tout le temps, même s'il y a des chrétiens qui jeûnent beaucoup, hein. Mais ça veut dire simplement qu'on aborde la vie différemment, et sans doute la gratitude nous aide à l'aborder positivement. Vous voyez, parce que la gratitude ne nous fait pas rentrer dans une démarche de morosité, où c'est triste d'être chrétien, ça n'a rien à voir. Non, mais ça nous fait rentrer dans une... On goûte davantage la vie, on goûte bien la vie. Et comme ça, ça laisse un peu de place pour ceux qui sont dans le besoin. Voilà, alors ça c'est le monde, ça c'est un point du monde, la tentation du monde, hein. Ça c'est un point, on aurait pu, je pense, en retrouver d'autres. Puis maintenant, l'ennemi le plus problématique, c'est la conversion de moi-même, hein, c'est mon ennemi, je suis mon propre ennemi dans ma vie chrétienne. Alors, premier point, alors là on repart sur vos livrets. Premier point, les regrets. Les regrets. Les regrets sont différents des remords. Les remords nous aident à nous confesser. C'est très bien. Quand on a un remords, c'est bien, parce que quelquefois, c'était pas bien ce qu'on a fait, donc il faut. Donc les remords nous poussent, c'est une conscience morale d'avoir mal agi, et nous poussent à la confession et à la conversion. Le regret, lui, c'est une tristesse d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Hein, ça ne pousse pas à la conversion. Hein, on est dans le regret, hein, mais c'est dommage. Si j'avais su... Voilà. Les remords sont donc utiles, même s'ils sont douloureux, mais ils permettent de nous confesser. Les regrets sont destructeurs et nous mettent dans une plainte sur le passé. Alors ça, c'est premier point, les regrets nous tournent vers le passé. Hein, parce qu'on va voir les différents moments de nos vies. Ils nous tournent vers le passé. Si les choses avaient été différentes, si je n'avais pas fait ça, si j'avais eu d'autres parents, s'il ne m'était pas arrivé cela, etc. On peut regretter plein de trucs, hein. Puis même des trucs pas regrettables, pourquoi pas. Or, le passé est passé. C'est fini, c'est derrière. Ça ne sert à rien de le regretter, donc ça, il faut se le dire. La prière de Saint François de Sales peut nous aider. Seigneur, voilà, vous l'avez sur vos livrets. Apprends-nous à discerner des choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les premières et donne-moi la force de supporter les secondes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans la vie chrétienne, en fait, jamais rien n'est perdu. Hein, c'est l'histoire même du salut. Jamais rien n'est perdu. Personne n'est perdu. On peut jamais regretter un truc de façon exagérée, c'est pas possible, on ne peut pas regretter. Parce que Dieu sauve et peut faire tout avec rien, ou pas grand-chose, et même avec des erreurs du passé, converties, connues, si nous cherchons à nous convertir. Se focaliser sur ce sur quoi on n'a aucun pouvoir est le meilleur moyen de déprimer. Vous avez essayé déjà ? Cela fait naître le sentiment d'impuissance, hein, c'est sûr, de victimisation. Ah oui, je suis victime, ah, ma vie, je suis vraiment pas de chance, moi, dans ma vie. Je n'y peux rien, on ne me comprend pas, etc. Les regrets sont un vrai poison. C'est un poison pour la gratitude. Alors, la question qu'on peut se poser, chacun, et qu'on sera invité à réfléchir à ça, tranquillement, dans la semaine qui vient, est-ce qu'il y a des regrets dans ma vie qui reviennent sans cesse? Est-ce qu'il y a des regrets voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'en fais? Deuxième point, deuxième ennemi à la gratitude, la peur, les peurs. Dans notre cœur, il peut y avoir de très nombreuses peurs, et des peurs inconscientes, beaucoup, beaucoup de peurs inconscientes. Peur de ne pas être aimé, peur d'échouer, peur du jugement des autres, peur de ne pas être capable, peur d'être abandonné, peur de mourir, peur du changement. Alors tout ça, c'est sur votre carnet aussi. Peur de ce qui arrive, peur que ceci arrive, hein, des choses qui ne sont pas arrivées, peur de perdre ce que je possède, peur de manquer. Et ce n'est pas exhaustif, on peut multiplier. Hein, les peurs, voilà. Alors les peurs ont des racines psychologiques très fortes, mais c'est un moyen puissant que le diable utilise pour nous arrêter, nous paralyser. Hein, la peur paralyse. Hein, on fait, quand on fait des rêves, parfois, on a peur, on n'arrive pas à courir. C'est exactement ça. La peur, ça nous paralyse, ça nous empêche d'agir. La peur est donc très mauvaise conseillère. Parfois, un peu de peur, ça ne fait pas de mal, ça permet d'estimer le danger. Mais sinon, voilà, la peur, c'est... Mais les peurs ne sont pas réelles, mais imaginaires. Le diable nous présente toutes sortes de situations futures pour nous effrayer, alors que la plupart ne se réaliseront pas. Hein, parfois, on ne dort pas la nuit, parce qu'on se dit ça va se mal se passer. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme, c'était prévu, comme on pensait. Ou ça se passe beaucoup mieux, ou ça se passe tellement différemment. Puis de toute façon, ça ne change rien. On aura beau dormir avec, en tournant le machin, le matin, ce n'est pas résolu. Hein. Et si nous devons un jour les affronter, ces peurs, ces difficultés, Dieu nous donnera la grâce au moment précis où nous en aurons besoin. C'est aussi une attitude de foi. Voilà. Le diable nous effraie par des peurs futures alors que Dieu nous donne sa grâce dans l'instant présent. Confiance, n'ayez pas peur. Dans la Bible, n'ayez pas peur, c'est écrit 365 fois, une fois par jour, sur une année. N'ayez pas peur. Et vous vous souvenez du pape Jean-Paul II, hein, du grand pape Jean-Paul II, qui sera première parole. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, dit Jésus, après la résurrection. Alors, quelles sont les peurs qui habitent nos cœurs? Voilà une question. Quelles sont les peurs qui habitent nos cœurs? Ça aussi, il faut y réfléchir, il faut prendre un petit peu de temps pour faire un petit examen et puis voir un peu. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des peurs vraiment inconscientes. Hein. On a des comportements qui sont liés à certaines peurs, mais voilà. Peur de manquer, par exemple, inconsciemment, ce qui manque, celui qui a peur de manquer, ben, il accumule. Ben, il accumule un peu, il accumule des sous dans sa banque au moins, s'il ne peut pas faire autre chose. Sinon, dans la maison. Ben, voilà, bon. Troisième ennemi, les soucis de la vie. Alors, vous connaissez la parabole du semeur hein, qui sème dans les ronces, sur machin. Et c'est intéressant dans cette parabole parce que Jésus dit bien, bon voilà, il sème sur le sol pierreux, ben rien ne pousse. Donc la parole de Dieu n'a aucun effet. Il sème dans le sol avec peu de profondeur, ça pousse et ça grille. Donc c'est les gens qui un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le plaisir d'un instant, et puis claque, et puis après ils vont chercher autre chose. Et puis il y a ceux du souci de la vie. Et moi, à chaque fois que je dis ça, je me dis, s'il y a un truc dont on est sûr qu'on est concerné, c'est certainement celui du souci de la vie. Et le souci de la vie, on voit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est les ronces qui étouffent la plante. C'est-à-dire la plante, elle pousse, mais en fait, elle ne peut pas pousser vraiment bien, parce qu'elle est étouffée par les ronces. Et donc, voilà, les soucis étouffent la vie. Les soucis de la vie sont problématiques parce qu'ils deviennent tellement envahissants, comme des ronces, hein, tellement envahissants qu'on finit par en être entièrement préoccupé par eux. Ils occupent tout notre champ de pensée et nous volent notre joie. Il y a un grand principe qui dit « Ce sur quoi on se concentre grandit. Plus on se concentre sur le souci, plus il grossit. » Il y avait aussi une image. Quand vous êtes... il y a une montagne devant vous, un gros souci. Une énorme montagne, un gros souci. Et en fait, si vous le vivez, c'est une image un peu spirituelle, si vous le vivez avec le Seigneur, prenez de la hauteur, d'un seul coup, vous voyez que cette montagne, en fait, c'est pas une montagne, c'est une taupinière. Seulement, ça dépend de la perspective. Voilà. Et c'est ça la vie, ça les soucis. Voilà. N'entretenez aucun souci, dit saint Paul aux Philippiens, mais en tout besoin, recourez à l'oraison, à la prière, pénétrez d'action de grâce. Voilà. Saint Paul nous dit, n'entretenez pas les soucis, ne vous concentrez pas dessus, mais priez. Hein, voilà. Les soucis, moi je dis souvent en oraison, par exemple, on commence l'oraison par déposer nos soucis. De toute façon, ils nous rattrapent, hein, donc ne faut pas s'inquiéter, on ne les perdra jamais. Hein. C'est ça qui est bien. C'est ce genre de truc, il n'y a pas de soucis. Là, on... Voilà, donc on les dépose, on les abandonne, hein, on sort de l'oraison, on les retrouve toujours, ils sont là, ils n'ont pas bougé, pas de souci. Peut-être que la prière va nous aider à les résoudre en plus, parce qu'on sera plus apaisé pour les aborder. Présentez vos demandes au Seigneur tout en rendant grâce, priez donc. C'est-à-dire en étant dans la gratitude de ce qu'il va faire. Se décharger sur Dieu de mes inquiétudes et rendre grâce. Focus sur Dieu et la puissance plutôt que sur nos soucis. Donc, détourner notre regard de nos soucis, les déposer devant Dieu et regarder Dieu qui tire profit de tout. Et que rien n'est impossible à Dieu. Quatrième point, l'impatience. Quatrième ennemi, l'impatience. Alors l'impatience, Thérèse d'Avila en parle souvent dans la progression spirituelle, elle dit, souvent dans les étapes de vie spirituelle, de vie d'oraison, elle dit, ben voilà, là il y en a plein qui s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus la patience de continuer. Ils trouvent que ça avance pas assez vite le truc. Et ça c'est un piège, et notre société est comme ça puisqu'on est dans une société de l'immédiateté. Aujourd'hui, je veux quelque chose, moi. Ça me surprend, mais ça m'émerveille aussi un peu. Hein. C'est-à-dire, je veux un truc, je vais sur Amazon, 3 jours après, je l'ai. C'est quand même dingue. Même un truc hyper rare. Je vous prends un exemple. Parce que là, on va acheter une crosse pour l'évêque, parce qu'il oublie sa crosse souvent. J'espère qu'il n'a pas écouté. Il oublie sa crosse souvent. Donc, à chaque fois qu'il est venu, il me dit, mais vous n'avez pas une crosse ou, hein? Il dit, non, on n'a pas de crosse ici. Donc, je me dis, on va en acheter une. On a eu un don particulier pour la liturgie. Donc, on va acheter une crosse. Je dis, mais comment je vais trouver une crosse? Parce qu'une crosse, puis ça va coûter une blinde. Il y a un prêtre qui était avec moi, il cherche sur Amazon, il trouve une crosse qui est fabriquée chez Bonhoeff. À un prix tout à fait raisonnable pour une crosse, hein, entre 300 et 500 euros. Et voilà, et on va avoir une crosse bientôt, et si je voulais, je l'aurais dans 3 jours. Non, mais c'est quand même dingue. Mais c'est parce qu'on est dans cette société-là. Et ça entretient un réflexe qui n'est pas toujours très bon, parce qu'on devient impatient, on ne supporte plus d'attendre. Or, il faut attendre, il faut apprendre à attendre. Et contentez-vous de ce que vous avez, hein, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, en parlant de Saint Paul tout à l'heure. Parfois, nous avons tout pour être comblé, mais il y a dans nos cœurs un sentiment de vide, que ce que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas, et que cela ne va pas assez vite. Un sentiment que je n'ai jamais assez malgré les réussites. On se dit, quand j'aurai ceci, quand j'aurai fait ceci, quand je serai dans telle situation ou à tel niveau, là je serai heureux. Mais en fait, ça n'arrive jamais. L'impatience nous fait vivre notre vie comme si elle était une course. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être toute la vie à fond. L'impatience est une ingratitude par rapport au temps présent. On ne goûte pas le temps présent. La peur, c'est par rapport au futur, hein, la peur du futur, le regret par rapport au passé et l'impatience par rapport au présent. Vive l'instant présent, hein, c'est un bel exercice, goûter l'instant présent. Au contraire, la gratitude me permet déjà d'être comblé aujourd'hui, maintenant, d'être déjà satisfait, de savourer ce que j'ai sans attendre sans cesse demain. C'est un truc très surprenant aujourd'hui, c'est qu'énormément de personnes ne se projettent que pour leurs vacances. Ils ne vivent plus du tout l'instant présent. Hein. Ils consomment l'instant présent, d'ailleurs. Parce qu'ils essaient de se distraire un peu, ils font le travail, tout ça. Bah. Mais ils ne goûtent pas. Hein, donc, voilà. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'objectif dans ma vie, pour le futur. Mais j'apprends à apprécier ce que j'ai déjà. Et cela me comble dès maintenant. Il y a un moment pour tout, il y a un moment pour chaque chose sous le ciel, dit l'Ecclésiaste. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui m'habite intérieurement le plus souvent? Quel est mon ennemi numéro un vis-à-vis de la gratitude? Le regret, la peur, le souci, l'impatience. Hein, donc de faire un petit examen, une petite réflexion. Alors, on a des dominantes chacun. En général, on est tous un peu touchés, on est touchés un peu partout. Comme on dit, on n'en meurt pas tous, mais on est tous touchés. Bon, voilà. Mais alors, Pour essayer de voir plus clair, c'est quand ça va un peu mal, si demain matin vous n'allez pas bien, vous demandez qu'est-ce qui tourne dans mon cœur ? Qu'est-ce qui fait que ça ne tourne pas bien ? Est-ce que c'est des regrets ? Est-ce que c'est que vous êtes impatient de je ne sais pas quoi ? Est-ce que c'est que vous avez des soucis qui vous envahissent complètement ? Ou est-ce que c'est que vous avez des peurs parce qu'il va se passer quelque chose après-demain ? Il va y avoir l'étape 3 de l'épidémie coronavirus et on ne sait pas ce qu'on va nous faire. Qu'on va nous demander. On va nous demander de rester chacun chez soi. Bon, voilà. Voilà, il y a un temps pour tout. Goûtez l'instant présent. Alors, troisième partie, comment installer la vertu de gratitude dans nos vies. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Pour développer la vertu de gratitude, la méthode est de poser sans cesse de petits actes de gratitude. C'est une répétition intentionnelle qui va créer la vertu. Donc, ce qu'on a dit, comme du sport, on s'engage dans le développement des vertus comme on s'engage en sport. Donc, ceux parmi nous qui sont sportifs, ils savent ce que ça veut dire. Sens de l'effort. Voilà. Ceux qui échouent tout le temps, j'en fais un peu partie, bon, ils savent moins bien ce que ça veut dire. Mais voilà, il faut s'engager et puis vraiment travailler comme on fait du sport, c'est-à-dire très régulièrement. Et pour les vertus, c'est même pas une fois par jour, c'est plein de fois par jour. Hein, il faut vraiment le travailler. Répétition intentionnelle qui va créer la vertu. Je vais vous présenter trois attitudes maintenant pour vous aider à poser ces petits actes de gratitude. Voilà, ça correspond aux trois points que vous avez. Premier point, regardez la lumière et pas les ténèbres. Donc ça rejoint des choses qu'on a dit. Donc on fait une petite préférence, le verre moitié plein plutôt que le verre moitié vide. La lumière plutôt que les ténèbres. Ce sur quoi on se concentre grandit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les soucis, si on se concentre sur les soucis, ils deviennent énormes. Si on se concentre sur la lumière, sur ce qui va bien, sur Dieu, eh ben, ça augmente. Si je ressasse les soucis, les peurs, les regrets, ce que je n'ai pas, ils grandissent jusqu'à envahir tout mon esprit. Au contraire, si je me concentre sur les bonnes choses, si j'ouvre les yeux sur les belles choses de mon quotidien, sur les signes que Dieu me fait aujourd'hui, sur les grâces qu'il me donne, sur les motifs d'action de grâce que j'ai, cela met mon cœur dans un état intérieur de gratitude. Je ne connais pas bien la méthode Vitose, mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu. C'est-à-dire que c'est à apprécier les choses, apprendre à regarder, apprendre à goûter, apprendre à faire marcher les sens et tout ça. Et la gratitude nous met aussi dans cette incarnation aussi. Voilà, on prend conscience de ce que l'on vit. Donc c'est un travail de désintoxication des mauvaises pensées. Se désintoxiquer des mauvaises pensées. Il faut considérer que les mauvaises pensées, même si on aime bien, parfois on est tellement habitué qu'on aime plutôt bien vivre avec nos problèmes. Puis comme ça on peut en parler aux autres au moins, à des sujets de conversation. Mais il faut considérer que c'est mauvais, que c'est pas bon, que c'est mortifère. Donc il faut se désintoxiquer. C'est incroyable comme on est accro aux mauvaises pensées. L'idée du parcours que l'on fait là est l'inverse, est d'inverser les choses. Nous ayons sans cesse sous les yeux, dans le cœur, dans notre esprit, des motifs d'action de grâce. Alors je ne sais pas si on peut avoir autant de sujets de conversation quand tout va bien. J'en sais rien, peut-être. Il faut essayer. Voilà. Donc regardez la lumière, c'est différent d'être optimiste. Même si moi je dis qu'il y a un optimisme chrétien. Bon, c'est une manière d'exprimer, d'utiliser les mots. Mais c'est différent d'être optimiste. C'est choisir de se focaliser sur la grâce de Dieu plutôt que sur nos péchés. Sur les victoires plutôt que sur les défaites. Sur les signes de Dieu plutôt que sur mes doutes et mes peurs. Un truc, par exemple, dans la vie de foi, il faut toujours se souvenir de l'expérience spirituelle qu'on a pu faire dans notre vie, qui est peut-être très loin, mais que Dieu nous a donné pour toute notre vie. Il n'est pas obligé de nous donner des expériences spirituelles de consolation tous les quatre matins sous prétexte que moi je veux mon plaisir quotidien. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc là c'est la même chose, c'est la même idée. C'est-à-dire on fait mémoire d'un événement passé, c'est l'Eucharistie, on en a parlé la semaine dernière aussi. On fait mémoire, c'est un mémorial. Voilà. Pour grandir dans la vertu d'espérance, Dans notre vie, il y a des ombres et une partie lumineuse. Plus je regarde les ténèbres, plus elles m'envahissent, plus au contraire je regarde la lumière, plus j'entre dans la lumière. Jésus nous dit, « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et ensuite, à un autre endroit, il dit, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. » Alors voyons ce que vous faites de bien et rendrons gloire à Dieu, le Père, qui est aux cieux. Alors de fait, le deuxième point, justement, que vous avez, c'est faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. C'est incroyable comme on retient plus facilement les moments difficiles, les souffrances. Or, il y a plein de belles choses dans ma vie, et c'est ce qu'il faut travailler pendant ce parcours, c'est de refaire sortir les belles choses. Mais on n'y fait pas attention. Donc, la semaine dernière, il y avait un exercice sur les 15 moments exceptionnels de ma vie. Bon, il y a des personnes, enfin, c'est pas moi qui l'écris ça. Beaucoup de personnes m'ont dit, j'ai cru que je n'allais jamais trouver les 15, et finalement, vous avez pu vivre cette expérience aussi. J'en avais tellement que j'ai dû sélectionner au final. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on se dit, bon, 15, 3 peut-être. Puis alors on creuse, on repasse sa vie, on dit, c'était quoi? Ben oui, mais finalement, ça c'était sympa, et puis tac, et puis tac, et puis tac. Puis après, des trucs tout simples, à admirer un paysage, faire une rencontre, etc. Et puis à la fin, la liste, elle finit par être longue, et finalement, les 15 ne suffisent pas, hein, il faut sélectionner. Hein. Après, voilà. Mais il faut le faire, ça, cet exercice. C'est intéressant. Hein. C'est vraiment un mémorial. Hein. On fait mémoire des belles choses. Voilà. À Parel Monial, Jésus dit à Marguerite Marie, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, à se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois, dit Jésus, de la part, de la plupart, que des ingratitudes. Par leur irrévérence et sacrilège, voilà. Par leur irrévérence et leur sacrilège, par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement de l'amour, il parle de l'Eucharistie. En tout cas, de ne pas être capable de rendre grâce pour ce que Dieu nous donne, hein, dans la grâce spirituelle, dans l'ordre spirituel évidemment, mais aussi dans notre vie toute simple, naturelle, qui nous est aussi donnée par Dieu. Voilà, c'est exactement ce que fait la Bible, qui raconte les hauts faits de Dieu, qui fait mémoire des hauts faits de Dieu. Donc il y a le fameux psaume 135 que vous connaissez peut-être, mais qu'on retrouve des psaumes un peu de ce type-là. « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, au Dieu des dieux, éternel est son amour, etc. » Et vous pouvez reprendre ce psaume 135 et vous l'approprier en mettant « Rendez grâce au Seigneur, il est bon » pour les choses qui sont belles dans vos vies. Souvenir, vous pouvez vous souvenir donc des événements passés, de votre passé, les noter et faire votre cantique, votre psaume d'action de grâce. Et vous le notez, et ensuite, quand ça ne va pas, vous le lisez, vous le priez. Parce que c'est une prière. Vous le priez. Rendez grâce au Seigneur. Et puis finalement, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce moment-là, et ce moment-là, et ce moment-là, et ce moment-là, et ce moment-là. Et ce qui est très beau aussi, c'est que plus on avance, plus dans la journée même, à la fin, on peut faire un psaume pour chaque jour. Parce qu'on arrive à goûter les petits moments. Des trucs tout simples. Voilà. Troisième point, embrasser l'instant présent. L'instant présent comme un cadeau est une attitude qui nous permet de vivre dans la gratitude. Vivre l'instant présent comme un cadeau. Moi, déjà, le premier cadeau, c'est d'être aujourd'hui, ici, avec vous, vivant. Moi, je serais très heureux au ciel, je n'ai pas du tout d'inquiétude, mais c'est un cadeau, je pourrais être au fond de mon lit avec le coronavirus. Et même si j'étais au fond de mon lit avec le coronavirus, je serais très heureux. Mais c'est vrai que c'est un cadeau, le fait de dire, mais rien que de vivre l'instant présent, c'est un cadeau. Je pourrais ne pas exister. Je ne suis pas ma propre origine, ce n'est pas moi qui ai décidé d'exister. Donc déjà, rien que ça, c'est merveilleux. Voilà. En tout cas, vive l'instant présent. Ce que je vis est parfait pour moi maintenant. Thérèse de Lisieux dit, considérez sa part comme la meilleure part. Ceux qui se confessent parfois à moi l'entendent, parce que je le dis assez souvent. Considérez sa part comme la meilleure part. Parce que je crois que c'est une petite image de Thérèse, mais qui est tellement parlante. La part du voisin, elle n'est pas intéressante du tout, je la vivrai pas bien. Parce que j'ai pas les qualités, j'ai pas les machins qu'il faut. J'ai pas les défauts qu'il faut aussi. Voilà, donc c'est ma part qui est la meilleure. Hein, ma vie, c'est la meilleure. Et nous, chacun notre vie, c'est la meilleure. Et ça peut être un peu difficile quand on est face à des épreuves, mais c'est la réalité. Ce que je vis est parfait pour moi. Maintenant, le moment présent peut être facile ou difficile à vivre. Dans les deux cas, je peux le vivre dans la gratitude. Pour la joie qu'il me donne, c'est un moment facile. Si le moment est facile, pardon. Pour la joie qu'il me donne, c'est un moment facile. Pour ce que je vais apprendre, si c'est un moment difficile. Voilà. Ce que vous endurez, l'épreuve, nous pouvons en tirer... Alors, il y a des gens qui ont réussi dans la vie qui disent, voilà, je ne sais plus trop, je lisais ça il n'y a pas longtemps, là. Il n'y a jamais vraiment d'échec. Quand il y a un échec, en fait, c'est j'apprends. Quand je réussis, tout va bien, et quand ça ne marche pas, ben, j'apprends. Donc finalement, voilà. Et dans la mentalité anglo-saxonne et américaine en particulier, il y a un peu ça, hein. Il y a cette idée que l'échec, au contraire, quelqu'un qui n'a pas fait d'échec, c'est un peu dangereux parce qu'il se prend un peu la tête et il croit qu'il va arriver à tout et péché de présomption. Voilà. Bon, chez nous, c'est un peu moins présent, on fonctionne un peu différemment, mais voilà, de croire vraiment que ma vie est belle et que finalement tout peut être tiré profit. Voilà. Ce verset, donc des Hébreux chapitre 12, versets 5 à 7, ces versets signifient pour nous que tout ce qui nous arrive est permis par Dieu, ce qui est facile et ce qui est difficile. Hein, donc après, il faut comprendre bien ce que ça veut dire permission. Mais voilà. La grâce de Dieu se donne dans l'instant présent. Il n'y a qu'un moment où on peut aimer, on peut faire une bonne action, on peut pardonner, on peut se réjouir. C'est le moment présent, pas l'autre moment, pas demain, pas hier. C'est que maintenant. Donc finalement, autant profiter du moment, hein. Sinon on passe à côté. Il n'y a que maintenant qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Il n'y a que maintenant qu'on peut exercer notre liberté. Demain, je ne sais pas, hein, demain je ne pourrais peut-être plus. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est maintenant que tout se passe, c'est maintenant que ça se joue. C'est un peu ce qu'on vit en carême. Hein. Quand on dit en carême, on dit bah, « Allez, maintenant, c'est le moment de la conversion. » La grâce de Dieu se donne au présent. Elle n'est pas dans le passé. Le passé est passé. On ne peut rien y changer. Elle n'est pas dans le futur. Le futur n'est pas encore là. La grâce de Dieu pour le futur me sera donnée lorsque j'en aurai besoin. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir avant. Par contre, le présent, c'est ce que le Seigneur m'invite à vivre maintenant. Il est le lieu où Dieu est présent et où la grâce m'est donnée. Là aussi, la grâce nous est donnée dans l'instant présent et non pas dans le passé. Alors, je termine, je vous rassure. Je ne sais pas plus la réunion. Oui, c'est ça, il est temps. Je termine, mais je ne peux pas résister à vous lire un poème de Thérèse qui est dans le bouquin. J'étais content de trouver. Sur l'instant présent, justement. Ma vie n'est qu'un instant. Alors, ça se chante, hein. Encore mieux, mais bon, je ne vais pas le chanter. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ? Te prier pour demain, au nom, je ne le puis. Conserve mon cœur pur. Couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est capable de souffrir qu'aujourd'hui, que pour aujourd'hui. La souffrance d'aujourd'hui, pas la souffrance d'hier ou de demain, elle est trop lourde. Thérèse a des belles paroles, y compris à la fin de sa vie, sur cette question-là, sur le fait de vivre l'instant présent et d'aimer dans l'instant et de souffrir dans l'instant présent. Voilà. Donc, un petit exercice avant de... Voilà, un petit exercice qui n'est pas les trois exercices que vous avez. Petit exercice, je vous propose de vous concentrer vers le Seigneur, hein, de vous mettre... de bien respirer, de bien me mettre à l'aise. Nous allons rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu de Dieu. Je vous propose de repenser au jour de votre conception et de votre naissance. Vous vous en souvenez? Mais vous savez que ça existait ce moment-là. Seigneur, tu nous attendais. Et tu t'es réjoui de nous voir. Tu nous as donné la vie. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ma vie. Même si pour ce moment de la conception et de ma naissance. Je vous propose de penser à un moment où, alors là pour le coup c'est dans nos souvenirs, un moment où Dieu nous a protégés d'un danger physique, spirituel, donc ça peut être une maladie, enfin d'un danger en tout cas. Je ne sais pas si nous arrivons à trouver ça dans notre mémoire. Nous souvenons de ce moment et nous réalisons que Dieu nous a protégés et qu'il aurait pu, la fin aurait pu être différente. Et nous rendons grâce. Merci Seigneur de m'avoir laissé en vie, d'avoir donné de continuer à vivre sur cette terre. Merci Seigneur d'avoir évité que je me perde. On peut aussi penser à une grande grâce qu'on a eue par le Seigneur, le moment où on a fait l'expérience de son amour, un moment spirituel fort. On a expérimenté sa présence. On a tous fait un jour plus ou moins fortement. Parfois, c'est un peu enfoui. Donc, nous prenons conscience de ce don de Dieu, de cette grâce de consolation que le Seigneur nous fait. Nous remercions. Là, pour terminer, nous pouvons aussi dire merci pour le moment, donc futur, de notre entrée au ciel, où le Seigneur nous prendra avec lui. Et nous savons que le Seigneur est plein de miséricorde, que si nous nous présentons avec lui comme avec un cœur d'enfant, nous arriverons dans ses bras. Merci Seigneur pour cette vie éternelle que tu me donnes. Merci pour cette vie qui va se poursuivre au ciel. Voilà. Donc vous avez d'autres exercices sur vos livrets. Hein. La beauté de la nature, très important. Faire les mémoires, faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Faire les listes des 15 moments si ce n'est pas fait. Et puis, l'accueil de l'instant présent, c'est aussi très important de travailler cette dimension. Alors, donc je vous invite vraiment à travailler ça tous les jours, hein, si vous pouvez. Bon, après, ça se poursuit aussi, mais pour prendre des bonnes habitudes, il faut travailler ça régulièrement, surtout au démarrage. Et puis, il ne faut pas se décourager, il faut persévérer. Hein, je vous le dis, le danger, comme dans l'oraison, le danger dans tous ces trucs-là, c'est qu'à un moment, on baisse les bras, on dit « je suis trop dur, je n'arriverai pas à me convertir », et puis on arrête. Et c'est dommage. Voilà. Alors, si jamais on passe dans la phase 3 du coronavirus, c'est-à-dire que je ne sais pas trop s'ils vont nous interdire le rassemblement, c'est possible. Hein. Non, mais je vous le dis quand même, parce que comme ça, on se met d'accord. Je continuerai le truc, mais je ferai sur Internet, je ne sais pas trop quoi. Enfin, j'enregistrerai, c'est sûr. Je ferai peut-être sur Facebook, un direct sur Facebook, si jamais ça ne marche pas, la semaine prochaine. Et puis j'essaierai d'enregistrer, enfin que je prenne conseil avec des gens parce que je pense qu'on peut enregistrer en même temps, enfin, j'en sais rien. Voilà, pour le mettre ensuite, pour que ce soit réécoutable et revisionnable. En tout cas, voilà, je n'arrêterai pas le parcours. Il n'y a aucune raison. Pas un virus qui va nous arrêter. Pas exagérer. Voilà. En tout cas, bon, s'il y a des interdits qui sont posés, je vous le dis quand même maintenant. Comme il y a eu le premier cas en Vendée qui a été décelé aujourd'hui. Voilà. Voilà. On va terminer comme ça, je pense. Il y a une corbeille qui peut permettre de faire un don pour. C'est juste pour les frais, l'impression des livrets. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas de gros frais, mais un peu de chauffage, tout comme ça. Voilà, donc ça peut aider la paroisse. Voilà, sinon, on se retrouve la semaine prochaine, hein, même jour, même heure, si Dieu le permet, sinon on le fera différemment, ben, ça marchera aussi. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai peur que ça parte trop tard, là, parce que normalement, il aurait fallu faire des petits groupes. Attends, quelle heure il est là ?